France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Encausse.
Les Jeux de Paris 2024 et la promotion de l'activité physique à travers la grande cause nationale ont sensibilisé les Français à l'intérêt de pratiquer une activité physique. Les chiffres le prouvent, 71% des Français de 15 ans et plus déclarent faire du sport selon les données 2024 de l'Institut national de la jeunesse et d'éducation prioritaire. Alors ces Jeux ont-ils vraiment transformé les sédentaires que nous étions en actifs, préoccupés de notre santé? On l'espère parce que bouger c'est indispensable pour nos os, nos muscles, notre cœur, mais pas seulement. L'activité est extrêmement utile pour les diabétiques, les hypertendus, mais également en prévention de certains cancers ou pour éviter leur récidive. Elle est également un élément positif, quasi thérapeutique dans la santé mentale et impacte même directement nos cellules pour leur éviter tout vieillissement. Mais pourquoi ? Comment l'activité physique agit-elle pour améliorer la qualité et l'espérance de vie? Quel sport pratiquer selon son état de santé et son âge? À quel rythme? Est-ce qu'il faut faire du cardio ou de l'endurance? Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Où trouver la motivation? Et surtout, comment maintenir sur le long terme une activité? Et comment réduire les inégalités dans ce domaine lié avant tout au niveau de vie? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes avec le docteur Jean-Marc Sen. Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Marina.
Vous êtes, je vais peut-être rire avec, parce que vous faites toujours rire quand vous parlez, donc c'est pas grave. Hein. Vous êtes médecin du sport, mais pas que. Vous êtes diplômé en physiologie, en biomécanique de la performance motrice, en traumatologie du sport, en ostéopathie, en podologie, en nutrition du sportif, en mésothérapie. Je m'arrête là?
Bon, à peu près, c'est à peu près ça.
Vous avez été le médecin de l'équipe nationale de France de judo de 2012 à 2020. Vous avez été également vous-même judoka. Aujourd'hui, vous pratiquez la lutta libre?
Ou à la lutta livrée.
Livrée, d'accord. Voilà. C'est une forme de lutte donc née au Brésil. Et vous êtes l'auteur du livre « Le sport, je me lance » chez InPress, un livre très utile quand on veut se lancer. Il faut le lire avant. Alors on va bien sûr donner des conseils pratiques et parler de tous ces bénéfices. Et on rappelle que l'activité physique est reconnue comme thérapie non médicamenteuse par la Haute Autorité de Santé depuis 2011. Mais d'abord, ces chiffres qui quand même étonnent un peu. Alors j'en ai d'autres là, 58% des Français disent pratiquer une activité sportive de manière régulière, soit au moins une fois par semaine. Alors ça diminue certes un petit peu avec l'âge, mais on est quand même loin avec ces nouveaux chiffres de l'idée que les Français sont des sédentaires et que donc l'obésité et les maladies cardiovasculaires nous menacent tous. C'est une réalité ces chiffres, vraiment ?
Alors, je pense qu'en fait, effectivement, ces chiffres montrent, c'est un sondage, évidemment, une déclaratif qui correspond évidemment au moment où, en fait, le sondage a été fait. Dans les faits, on a des chiffres malheureusement plus péjoratif par Santé publique France, hein, qui indique que un peu plus de la moitié atteignent les recommandations chez les adultes.
Va finir, ouais.
Et puis chez les enfants, c'est moins que ça, c'est moins de la moitié qui atteignent ces chiffres-là. C'est 33 à 47% simplement qui atteignent les recommandations
oui, ça,
des plus jeunes.
Parce que dire je fais du sport parce qu'une fois par semaine je fais une balade en vélo, c'est pas tout à fait ça qui va être utile vraiment pour notre santé.
Exactement.
Pour bien préciser, parce que effectivement cette sédentarité chez les jeunes vous inquiète, bien sûr. Quand on dit sédentarité et qu'on dit peu ou pas d'activité physique, c'est pareil ou pas ?
Alors, c'est deux notions, justement, ça c'est vraiment intéressant, c'est deux notions différentes. Il y a l'insuffisance d'activité physique, c'est le fait de dire je ne bouge pas assez, et le fait de bouger suffisamment, c'est important véritablement pour la santé. Et puis, il y a la sédentarité, c'est-à-dire le fait de rester assis, le fait de rester immobile, en dehors des périodes normales d'alimentation et de sommeil, et ben de rester assis devant des écrans, par exemple, pour travailler ou pour se divertir, et bien ça, c'est un réel effet péjoratif, indépendant de l'insuffisance d'activité physique. Donc on a vraiment les deux leviers qui sont des risques qui se cumulent.
Parce que quand on regarde les chiffres, c'est les jeunes, c'est pareil. On a l'impression qu'avec les jeux, tout d'un coup, nos jeunes sont devenus hyperactifs. C'est pareil, ils sont quand même un peu menacés de ce qui menaçait les jeunes avant.
Absolument, c'est vraiment, il y a une insuffisance d'activité physique et une sédentarité qui sont en train d'augmenter chez les plus jeunes. Donc ça veut dire que c'est une véritable, là il faut le dire comme ça, une bombe à retardement. Puisqu'on sait qu'en dessous de 17 ans, la condition physique chute du fait de cette insuffisance d'activité physique et de cette sédentarité. Ça veut dire que dans 10, 15, 20 ans, eh bien ces jeunes vont développer des pathologies de cette insuffisance d'activité physique, donc les pathologies métaboliques, cardiovasculaires, qui vont donc avoir à 30 ans, 35, 40 ans, c'est des pathologies
très,
très jeunes que leurs parents avaient au-delà de 60, 70 ans. Donc ça veut dire que là, c'est vraiment un vrai problème de santé publique qui va être porté, et donc il faut s'en préoccuper parce que non seulement ils pourront moins travailler du fait de ces pathologies, mais en plus ce sera un coût supplémentaire pour l'assurance maladie, donc c'est une espèce de bombe énorme qui se prépare.
Et ça s'explique bien par les bénéfices liés au sport, on va y venir tout de suite, mais juste parmi ceux qui ne font pas de sport, c'est quand même 3 Français sur 10, parmi les raisons invoquées, il y a le manque d'intérêt ou de temps, il y a l'état de santé fragile incompatible avec une activité, ça on va voir que c'est pas suffisant tout à fait comme argument parce qu'on peut les mettre au sport, mais il y a quand même les contraintes économiques, il y a une inégalité sociale dans ces pratiques, il y a des chiffres là-dessus.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que moins, notamment les études montrent que plus le niveau de diplôme est faible, moins on pratique d'activité physique. Ça, c'est tout autre facteur égal par ailleurs. Donc ça veut dire que effectivement, probablement pour plusieurs facteurs, le facteur financier, certainement, ça intervient évidemment, mais pas que. Il y a aussi probablement un facteur culturel. Le sport est encore relié beaucoup, par exemple, aux loisirs.
Bien sûr.
Et donc, les loisirs, évidemment, sont plus utilisés dans les classes favorisées. Et donc, c'est ça un petit peu qu'il faut revoir et remontrer comment, en fait, on peut rendre accessible au plus grand nombre cette activité physique.
Oui, parce que cette inégalité, elle commence dès l'école. Il y a 29% des parents qui disent avoir dû renoncer à inscrire leurs enfants dans un club en raison du prix de la cotisation. Au moins, on pourrait quand même gommer ça en faisant faire plus de sport aux enfants à l'école. On en est où? Parce que pourquoi dans certains pays, nos pays voisins, l'école s'arrête à 1 ou 2 heures, et après, enfin 13-14 heures, et après, il y a l'activité physique. C'est toujours pas vrai chez nous.
Non, c'est toujours pas vrai, et ça, c'est vraiment dommage. Et même toute la partie sport, en fait, de l'éducation nationale se plaint d'être maltraitée, en quelque sorte, d'être considérée insuffisamment, alors que c'est une discipline qui est majeure, parce que, notamment dans l'apprentissage, on sait quand les jeunes font de l'activité physique, ils ont des meilleurs résultats scolaires. Ça améliore l'attention et la mémorisation. Donc ça, c'est d'abord démontré. Et donc, il y aura un intérêt d'abord pour l'apprentissage scolaire. Et puis, il y a cet intérêt de santé qu'on vient de donner, de sociabilité, de sociabilisation également, qui peuvent apparaître. Alors, c'est à la fois pendant les heures scolaires qu'il faut augmenter ça, et puis après, effectivement, il y a quelque chose qui est très sous-utilisé. Je parle quelquefois de l'UNSS, l'Union Nationale des Sports Scolaires.
Oui.
C'est une association sportive scolaire, en fait, qui crée même des petits championnats, des petites activités diverses à l'école.
Qui est assez inconnue, hein, si je peux me permettre.
Qui est complètement inconnue, alors, qui est, comme disent les jeunes, qui est sous-côté.
Vous voyez pourquoi je rigole quand vous parlez? Vous êtes toujours de bonne humeur.
Voilà, et donc cette activité, cette UNSS, effectivement, devrait être beaucoup plus usité parce que, d'abord, ça coûte vraiment pas cher, donc c'est accessible, ça propose des activités extrêmement variées, et puis il n'y a pas l'effet de devoir emmener l'enfant, en fait, faire du sport. C'est directement à l'école. Donc ça, c'est quand même des avantages de facilité qui sont importantes.
Alors je disais, on sait globalement que le sport est bon pour la santé, point. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. On va préciser quelques petits éléments qui ne sont pas assez connus pour le cœur, effet sur notre cœur. C'est quoi le mécanisme? Est-ce que ça agit directement sur cet organe ou sur les facteurs de risque, comme par exemple la tension ou le taux de cholestérol?
C'est un petit peu les deux. Évidemment, ça agit sur l'organe et le système cardiovasculaire, parce qu'en fait, le fait de faire du sport, on va réduire les résistances artérielles périphériques. Alors, je vais parler un peu plus clair.
Oui, c'est gentil.
C'est-à-dire qu'on va faire que les artères et les petites artérioles, donc les vaisseaux se relâchent un petit peu. Résultat, ça va moins mettre de pression à l'intérieur, en quelque sorte, du système vasculaire. Ça, c'est une chose qui est intéressante. Deuxièmement, on sait que ça permet au cœur d'être plus musclé, donc d'être plus efficace dans son rôle cardiaque. Et puis, indirectement, parce qu'on sait que le fait de faire baisser la tension artérielle, évidemment, ça, c'est un facteur qui va protéger également le système cardiovasculaire. Donc, c'est un effet direct, bien évidemment, sur les vaisseaux, sur le cœur, et puis c'est un effet indirect par la régulation notamment de la tension artérielle.
Autre facteur de risque très amélioré par la pratique sportive, ça on le sait assez peu, c'est la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. En clair, c'est bon pour les diabétiques directement, ça a une action directe pour les diabétiques.
Extrêmement puissante parce que en fait l'activité, il y a deux choses qui peuvent faire rentrer le sucre dans les cellules et faire consommer ce sucre, c'est l'insuline voilà, qui est une hormone qui fait rentrer le sucre, et la contraction musculaire. Voilà, ce sont les deux seules façons, ou deux principales façons de faire rentrer le sucre dans les cellules. Donc, le fait de faire une activité physique, de contracter les muscles, mais simplement parce qu'on marche, ou parce qu'on fait du bricolage, ou du jardinage, eh bien, on va faire rentrer ce sucre dans les cellules, on va donc faire diminuer le taux de sucre dans le sang qu'on appelle glycémie, et donc on va réguler le diabète. C'est donc un moyen extrêmement efficace pour prévenir et participer au traitement du diabète, à tel point juste qu'on peut diminuer quelquefois le traitement des diabétiques, voire quelquefois l'annuler.
D'accord.
Quand on est dans une situation pré-diabétique.
Alors, c'est tellement vrai que depuis plusieurs années, hein, le médecin peut prescrire ce qu'on appelle du sport sur ordonnance, ce qui est une vraie avancée, mais est-ce que ça veut dire que la prise en charge, par exemple, par la sécurité sociale de l'inscription dans un club marche? Ça veut dire que c'est suivi des faits ou c'est juste faites du sport?
Pour l'instant, c'est surtout une prescription. Cette notion de prescription d'activité physique qui m'est chère, puisque j'en en parle depuis plus de 20 ans, effectivement, ça c'est quelque chose qui est important, et donc ça c'est bien, mais le médecin peut prescrire tout un tas de choses, évidemment. La seule chose, c'est que ce n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. C'est là un point clé, véritablement, si nos décideurs nous écoutent, je pense que l'idée, ça serait, premièrement, de permettre ça, et deuxièmement, de permettre... Moi, j'aimerais qu'il y ait des éducateurs sportifs dans tous les parcs et jardins...
Vous pouvez rêver, allez-y.
De ville. Pourquoi? Eh bien, parce que l'idée, ce serait que tout un chacun puisse facilement aller de manière encadrée faire une activité physique. Il y aurait un bénéfice. Il y a une étude, juste très rapidement, qui a montré, par exemple, le vélo. 1 kilomètre de vélo égale 1 euro d'économisé pour la société.
Il faut voir à long terme, quoi. Il faut penser à long terme.
Si jamais cette étude extrêmement sérieuse qui a été faite, qui montrait que si seulement 15% des déplacements qui pourraient être faits à vélo, c'est-à-dire moins de 3 km, étaient réalisés, c'est 4,9 milliards par an d'économiser en France, hein, dans le budget. 4,9 milliards par an, simplement si on fait 15% de nos déplacements à vélo. Voilà.
Il y a un autre élément qui est important et qui existe depuis 2019, et ça c'est aussi une grande avancée, ce qu'on appelle les maisons sport et santé, qui sont des endroits où on accompagne les personnes, soit qui n'ont jamais fait de sport, soit qui ont des maladies chroniques, avec un vrai accompagnement sportif, parce qu'on ne fait pas n'importe quel sport quand on est diabétique, il faut adapter pour que ça soit le plus efficace possible. Il y en a aujourd'hui, je ne sais plus combien qui ont été... il y a 509 000 personnes qui ont été accompagnées. Oui. Ça, il faut continuer là-dedans, c'est une vraie avancée.
Alors c'est bien sûr intéressant, bien sûr. C'est intéressant.
Vous avez l'air un tout petit peu dubitatif.
Non, parce que pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait... Les gens, d'un point de vue pragmatique, vont voir leur médecin. Ils vont rarement dans une maison sport santé. Mais ça fait partie des choses intéressantes, des propositions qu'il faudrait évidemment faire, hein, et qui participent en tout cas à une ambiance qui favorise l'activité physique. Et puis surtout, c'est qu'il faut donner l'habitude aux médecins de prescrire et de faire confiance à des éducateurs sportifs qui sont formés, et de connaître et de faire ce lien-là entre des éducateurs formés, responsables, et des médecins qui, évidemment, en prescrivant, engagent leurs responsabilités et donc souhaitent que la personne qu'ils vont confier à l'éducateur sportif soit entre de bonnes mains.
Alors, autre bénéfice, et après on va passer à vos conseils, bien sûr, et vos recommandations, bénéfice pour le cancer à la fois en prévention, ça permet d'éviter, avec un pourcentage relativement élevé, le cancer du sang, du sein et de l'endomètre chez la femme, de la prostate chez l'homme, du côlon dans les deux sexes, de l'œsophage, de la vessie, du rein, donc vrai bénéfice de prévention, et on sait également que ça réduit le risque de récidive quand on a eu un cancer, notamment dans le cancer du sein et colorectal, donc là aussi des bénéfices qui sont prouvés, qui sont très intéressants. Dernier bénéfice que je voulais évoquer, c'était la santé mentale, très important. On sait notamment que dans la dépression légère à modérée, l'activité est recommandée en première intention, avant tout traitement médicamenteux, mais même dans les dépressions sévères, c'est utile.
Ben oui, c'est utile en fait. Si on revient d'abord sur la notion de cancer, c'est cancer du sein, c'est entre 20 et 30% de risque en moins de faire un premier accès. Et si une femme a fait un premier accès, c'est 49,5% de risque.
C'est énorme.
Une chance sur... Enfin, diminue de 50%.
C'est énorme.
Aucun médicament ne permet d'avoir ça au monde. Donc ça, c'est un élément qui est gigantesque. Et sur effectivement la santé mentale, ce qui est important à retenir, c'est qu'effectivement, ça, c'est même plus puissant que les médicaments dans les dépressions légères à modérées. Or, les dépressions légères à modérées, c'est la principale, c'est le principal des troubles. Donc, ça veut dire que ça permet de traiter, de prévenir un certain nombre de choses. On dit que chez les jeunes, par exemple, il y a le moral est en berne chez les jeunes.
Oui.
Et chez les jeunes, il y a une insuffisance d'activité physique. Je crois qu'on peut faire un lien entre les deux sur cette sédentarité des plus jeunes, cette insuffisance d'activité physique et le moral qui est en berne. Et une des méthodes, évidemment, c'est beaucoup plus complexe, mais une des méthodes serait de remettre à l'activité physique. C'est évident qu'on verrait une amélioration, notamment de l'état d'esprit des plus jeunes.
C'est vrai aussi que si, pour faire bouger les jeunes, il faut quand même que les parents bougent, parce que leur dire « allez-y et bougez et restez dans le canapé », c'est pas vraiment la solution. D'accord, on a compris qu'il fallait bouger. Comment on bouge ? Très honnêtement, moi je comprends pas tous ces termes, le cardio, l'endurance, le fractionné, l'aérobie, l'anaérobie, tout ça on comprend pas très bien.
Oui.
Comment on choisit ? On veut se mettre au sport, on a peut-être une pathologie chronique, on est peut-être en surpoids, on a peut-être la flemme, on a plein de trucs. Comment on fait pour choisir déjà son sport ?
Ouais. Alors c'est vrai, le premier élément de santé, ça c'est vraiment un élément important. Si on a une pathologie, si on est inquiet, on n'hésite pas à consulter son médecin pour avoir quelques conseils et être sûr qu'on va pas faire, bien sûr, de bêtises. Deuxième chose, l'idée, la principale chose, on sait que bouger, quoi qu'on fasse, c'est intéressant. L'être humain est fait, en fait, pour être dans un mouvement. Il n'est pas fait pour être immobile, ça n'existe pas. Il est fait pour être dans un mouvement. Ce mouvement, il doit seulement être adapté à la personne. Mmh. Et ensuite, la personne doit sentir ce mouvement comme utile et comme bénéfique. Pour pouvoir sentir ce mouvement comme bénéfique, eh bien, en fait, il doit activer le circuit de la récompense. Circuit de la récompense, c'est-à-dire le fait d'avoir quelque chose qui va faire plaisir.
Donc, il faut faire un sport qu'on aime.
Et voilà. Absolument. La première chose, c'est ça. Et en fait, quand on dit sport, quelquefois, moi, je préfère utiliser le terme activité physique, parce que sport renvoie au sport scolaire, qui n'était pas toujours quelque chose qui est une grande partie de plaisir. Donc, une activité physique, et quelle qu'elle soit, j'aurais envie de dire, à partir du moment où ça peut être aller se promener dans la nature, ça peut être nager parce qu'on aime l'eau, ça peut être faire de la gymnastique, ça peut être le jardinage, si on aime jardiner. Enfin, vraiment, il faut essayer d'aller chercher de l'activité physique qui active, en fait, ce circuit de la récompense et qui va faire qu'on va y retourner plus facilement.
Ça peut être aussi du sport, l'activité physique en club ou en tout cas collectif. On sait que le sport, c'est un vecteur de lien social très important pour les gens isolés, notamment les seniors très isolés. Ça peut être intéressant aussi, dans ce cas, de se rapprocher d'un club et de faire des activités en groupe.
Absolument. Le fait, en fait, d'être en groupe, ça aussi, c'est un facteur intéressant parce que...
Ça motive déjà.
Ça motive, on est plusieurs, quelquefois on se sent plus investi quand c'est dans le groupe, hein. On va faire une activité en groupe et parce qu'on va faire cette activité pour les copines, les copains, on va se dire faut pas qu'on manque au groupe, et donc quelquefois c'est une façon de motiver, ou même c'est les copines, les copains qui appellent en disant dis donc comment ça se fait que tu n'étais pas venu, et donc ça peut être vraiment quelque chose de sympathique et créer effectivement du lien social. Voilà, et puis surtout le plaisir, on l'a dit, et puis surtout une activité d'intensité adaptée.
Donc ça, il faut des conseils pour ça.
Oui, alors
parce qu'il y a plein de gens qui disent moi je fais du yoga 3 fois par semaine, donc c'est bon. Dans le yoga, enfin moi que je m'ignore, il n'y a pas trop de cardio.
Non.
C'est plus des tas de mouvements, d'étirements et de renforcement des muscles profonds, mais c'est pas forcément du cardio. Comment on demande des conseils à qui ?
Alors bien sûr, ça peut être à un médecin du sport. Parce que, ou un médecin généraliste, mais quelquefois le médecin du sport connaît un petit peu mieux cela. Sinon, faut pas hésiter à prendre des conseils auprès d'un professionnel du sport. Un professionnel du sport bien formé va être capable d'adapter, et maintenant il y a des éducateurs sportifs qui ont une formation particulière d'activité physique adaptée. APA, voilà, ça s'appelle comme ça, activité physique adaptée, APA. Et donc, ces professionnels-là, en fait, sont formés, c'est leur formation, pour pouvoir adapter à toute personne, quel que soit son niveau de condition physique et sa pathologie, l'activité sportive ou l'activité physique. Et donc, faut pas hésiter à prendre quelques leçons Voilà, ça coûte
pour
pas.
Démarrer,
pour démarrer. Et c'est pas obligatoirement des investissements qui sont très, très, très élevés. Alors évidemment, c'est cher, parce que si on parle de 20, 30 euros, c'est quand même une somme, hein, si
Bien
on
sûr.
Doit le répéter. Ça, c'est quand même conséquent. Mais quelquefois, ça vaut le coup, si ça permet...
Juste pour démarrer l'activité.
Pour démarrer l'activité, se sentir mieux, ça peut valoir le coup.
Alors, autre sujet très douloureux, le temps d'activité. Alors, il y a des recommandations. Le ministère chargé de la Santé recommande de pratiquer l'équivalent d'au moins 30 minutes de marche rapide par jour, au minimum 5 fois par semaine, ça c'est pour les adultes, et au moins 60 minutes par jour pour les enfants et les adolescents, honnêtement. Ça paraît inatteignable pour beaucoup de gens. Ça veut dire que si on fait un peu moins, ça sert à rien ?
Alors, il y a deux choses qui sont vraiment intéressantes. C'est que si on fait moins, ça sert quand même. On sait que dès le premier pas, il y a une efficacité. C'est-à-dire que si on fait que 5 minutes ou 10 minutes, c'est mieux que rien du tout. C'est moins bien que les 30 minutes, mais c'est mieux que rien du tout.
C'est pas mal de commencer par moins et de monter progressivement, parce qu'on peut se décourager trop vite, sinon.
Et c'est exactement ça. C'est-à-dire le fait d'aller dans la progressivité, c'est une des règles de l'adaptation de l'activité physique, c'est la progressivité. Et donc, il vaut mieux commencer par 5 minutes. 5 minutes, 10 minutes, c'est très bien, déjà. Ça, il faut vraiment féliciter les gens qui passent. Je fais pas, et puis je marche 5 minutes, je vais aller chercher une baguette à la boulangerie pendant 5 minutes, etc. Ça, c'est très bien. Et puis la deuxième chose, c'est que ça peut être fractionné. Ça veut dire qu'on peut très bien dire, je fais 5-10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi, 10 minutes le soir. Ça marche aussi, ça fonctionne aussi. Donc, on peut le fractionner et on peut faire un petit peu moins, ça marche très bien. Et puis... c'est pas obligatoire, on dit de la marche, parce que, évidemment, c'est l'activité physique la plus simple. Mais si, par exemple, quelqu'un se dit, mais tiens, je veux me remettre, il y a maintenant des vélos électriques, ou des choses qui accompagnent, etc. Eh ben, c'est très bien.
Oui. Tout ce qui fait bouger, c'est bien.
Tout ce qui fait bouger.
Et ça peut être le lundi, le jardinage, le mercredi, de la marche, le vendredi, du vélo, c'est pas...
Exactement. Voilà.
Comment on fait pour tenir plus d'un mois, s'il vous plaît?
Le circuit de la récompense.
Vraiment si ça nous plaît.
Oui, voilà. Ah oui, ça c'est le... Ça, il n'y a aucune autre solution. C'est-à-dire que l'être humain est fait comme ça. Si on n'active pas ce circuit, l'être humain ne recommence pas. Donc ça, c'est clé. C'est un circuit qui est connu maintenant, au cœur du cerveau, qui permet en fait de faire qu'on va retourner vers une chose, une activité. C'est le circuit de la récompense. Il faut qu'à un moment donné, il y a eu ce plaisir-là, cette découverte. Alors, faut essayer différentes activités.
Parce qu'on trouve la bonne.
Voilà.
On va y arriver.
Voilà.
On va à présent s'intéresser, si vous voulez bien, à la recherche. C'est une nouveauté dans Carnet de Santé. Chaque semaine, Alexandra Delbonne nous proposera une de ses passionnantes chroniques avec science. Aujourd'hui, écoutez, c'est le mystère du membre fantôme éclairé par les neurosciences. Vous allez réagir juste après. Écoutez.
Que se passe-t-il dans le cerveau quand un membre disparaît? Quand on perd un bras ou une jambe, on imagine que la sensation disparaît avec. Pourtant, ce n'est jamais le cas. Chaque année, en France, environ 20 000 personnes subissent une amputation, le plus souvent d'un membre inférieur, après un accident ou à cause d'une maladie comme le diabète. Certains vont porter une prothèse, d'autres pas. Mais quasiment tous peuvent partager une expérience étrange, continuer à sentir le membre disparu. C'est ce qu'on appelle le membre fantôme. Et il existe une idée reçue tenace à ce sujet, membre fantôme n'est pas synonyme de douleur. Josina De Graaf est professeure à Aix-Marseille Université et chercheuse à l'Institut des sciences du mouvement.
Le membre fantôme n'est pas du tout seulement douleur et très souvent même pas de la douleur. En général, le membre fantôme, c'est en fait une perception que le membre est encore là. Ça peut prendre différentes formes, ça peut être comparable avec le bras avant, juste sa présence. Parce que si on réfléchit bien, on ne sait pas trop pourquoi on sent nos mains intactes. Si je vous dis ce que vous sentez votre main avec les yeux fermés, vous dites oui. Et je dis comment? Ah ben je ne sais pas, elle est là. Bon. Très souvent, mais pas toujours, les amputés disent la même chose. Ma main est juste encore là. Mais il y a des gens qui disent pas c'est par simple présence. Ils disent bah je le sens parce que ça picote un peu. Je sens ma main ou le poignet par exemple, parfois jusqu'au coude. Hein. Ou le coup de la main est rien entre les deux. Enfin bon, bref, je le sens par picotement. Ça me picote un peu. Si ça picote beaucoup, ça commence à se rapprocher de la douleur. Donc la douleur, c'est une, je dirais très souvent, une forme extrême des sensations qu'ils peuvent avoir quand ils n'ont pas de douleur.
Alors, que se passe-t-il dans le cerveau quand un membre disparaît? Observe-t-on une réorganisation cérébrale? On connaît déjà ce phénomène pour les sens. Chez une personne devenue aveugle, les zones du cerveau dédiées à la vision peuvent être réaffectées à l'ouïe, par exemple, ce qui renforce la perception des sons. Mais il y a un débat. Les études chez l'animal pointent une réorganisation, mais l'animal ne peut pas parler pour vous dire s'il sent vraiment son membre disparu. Or, les patients qui vivent l'expérience du membre fantôme ont la sensation de pouvoir le bouger, ce qui ne va pas dans le sens d'une réorganisation cérébrale. Et c'est précisément ce débat qu'une nouvelle étude parue dans Nature Neuroscience a voulu éclairer. Pour cela, ils ont eu recours à un protocole assez inédit. 3 patients ont été suivis par imagerie cérébrale avant et après leur amputation. Alors 3, ça paraît peu, mais pour une expérience comme celle-ci, en neurosciences, avec 7 ans de recrutement, 18 candidats, eh bien 3 patients, c'est déjà bien. Les scientifiques leur ont demandé de bouger leurs mains avant l'amputation dans une IRM, puis de répéter cette consigne après l'opération et les 2 cartes cérébrales ont été comparées. Résultat, elles sont identiques, il n'y a donc pas de réorganisation cérébrale.
Ce ne sont pas des amputations traumatiques, ce sont des amputations prévues à cause d'une pathologie ou un problème. Et du coup, ils ont fait les mesures avant, ils ont fait les mesures 3 et 6 mois après, et même un cas, je crois, 5 ans, et ils ont vu que cette aire continue à exister. Et en fait, il se passe pas grand chose après par rapport à avant. Ce qui est super parce que c'est la première étude où ils ont vraiment fait une comparaison directe entre avant et après amputation. Je trouve cette étude absolument magnifique, hein, c'est clair. Mais la limite de cette étude, c'est qu'on ne comprend pas mieux pourquoi et comment. Et ça vient de quelque part parce que je fais un mouvement, donc j'envoie des commandes motrices et il y a des activités sensorielles qui reviennent, somatosensorielles, des tendons, des muscles, de la peau. Et tout ça monte au cerveau et dit « Ah, il y a eu un mouvement et le mouvement était tel ». Et donc, il y a cette boucle en permanence. Quand tu amputes quelqu'un, l'idée classique, c'est qu'il n'y a rien qui revient de la main. Et donc, cette boucle n'existe plus. Donc, pourquoi il y aurait encore une représentation de la main ou du bras perdu dans le cerveau ?
Les informations sensorielles ne devraient pas remonter. Donc, si rien ne bouge dans le cerveau, où le changement a-t-il lieu? Pour Josina de Graaf, il faut chercher dans les nerfs qui reliaient autrefois le membre disparu. Cela signifierait donc que la réorganisation a lieu dans le système nerveux périphérique et pas central, mais qu'il y a bien une plasticité. Reste maintenant à le prouver, c'est le prochain défi pour comprendre comment le corps fabrique cette illusion et clore enfin ce mystère. Mais attention, l'objectif en ligne de mire pour la recherche n'est pas de supprimer le membre fantôme. En fait, sans douleur, il n'y a pas vraiment d'inconvénient, et même au contraire, il peut aider les patients et patientes à manipuler leurs prothèses plus facilement.
Merci Alexandra, très intéressant. Jean-Marc Sen, je voudrais juste qu'on réagisse. Quand il y a les douleurs, le médecin du sport que vous êtes le connaît bien, il y a de la rééducation.
Et oui, il y a de la rééducation possible. D'ailleurs, une rééducation qui est vraiment intéressante, qui est une rééducation sur un miroir. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, imaginons que qu'un des bras est amputé, eh bien, c'est de placer la personne dans un miroir, face à un miroir, de bouger le bras valide, qui est présent, et en fait, le cerveau imagine que c'est le bras amputé qui est en train de bouger, et ça a démontré qu'on soulageait les douleurs du membre fantôme. Donc là aussi, c'est vraiment intéressant de voir ça, et ces études-là qui viennent d'être dites expliquent peut-être en partie cet effet cérébral voilà, de cette rééducation en miroir.
Merci beaucoup et merci pour tous vos conseils. Je rappelle votre livre, Jean-Marc Sen, Le sport, je me lance, c'est chez InPress. Si vous voulez être d'aussi bonne humeur et aussi en forme que le docteur Jean-Marc Sen, vous y allez. Mais c'est vrai que c'est plein de conseils et plein de conseils qui sont adaptés aux gens qui sont flemmards, etc. Enfin, le commun des mortels, oui. Mais ça donne vraiment envie de s'y mettre. Et avec tous ces bénéfices, c'est vraiment important. Merci beaucoup à Anne-Claire Bazin, Jean Bafouille, pour la préparation de cette émission et à Swad Boukorsa pour sa réalisation.